De 1894 à 1906, l'affaire Dreyfus. Une affaire d'espionnage dans un contexte de revanche contre l'Allemagne va mettre en effervescence la France entière. Alfred Dreyfus, un officier français, est accusé d'avoir livré aux Allemands des informations confidentielles. Il est innocent. Cette accusation est un coup monté. Dreyfus est juif, les antisémites l'ont choisi pour discréditer toute la gauche. Mais, peu à peu, grâce à l'obstination du frère de Dreyfus, la vérité va éclater. Jamais la perte de l'Alsace et de la Lorraine, et de ses riches minerais, n'a été admise en France. L'esprit de revanche ne cesse de se développer. La tension est vive pour tout ce qui concerne les relations entre la France et la Prusse. Tout est surveillé. Même les corbeilles à papier. C'est dans l'une d'elles qu'est découvert à l'ambassade d'Allemagne un bordereau rédigé par un officier français. Ce bordereau annonce l'envoi de documents confidentiels à l'attaché militaire allemand Schwarzenkoppen. Qui donc a pu transmettre ces documents? De quels indices dispose-t-on? De l'écriture de l'envoyeur, bien visible sur le bordereau. C'est mince. Mais c'est suffisant pour le ministre de la guerre, le général Mercier. Il croit reconnaître, puis il reconnaît l'écriture du capitaine Alfred Dreyfus, polytechnicien, ancien élève de l'école de guerre. Dreyfus tombe des nues. Il clame son innocence, en vain. Il est juif, et le sentiment antisémite est exacerbé dans l'armée tout entière. Le 15 octobre 1894, après une enquête du commandant du Paty de Clam, il est arrêté et écroué à la prison du Cherche-Midi. Alfred Dreyfus va passer en conseil de guerre. Le 22 décembre, le général Mercier communique au juge, à l'insu des avocats de Dreyfus, des preuves secrètes destinées à accabler l'accusé. En réalité, ces preuves sont des faux. Dreyfus est reconnu coupable. Il est condamné à la dégradation militaire et à la déportation à perpétuité. Jaurès, qui rattrapera plus tard cette déclaration, affirme à la Chambre des députés, le 24 décembre 1894, qu'il se lave les mains du sort de ce capitaine juif, et que la peine qui lui est infligée est bien trop douce. La mort eût été préférable. Le 5 janvier 1895, dans la cour des Invalides, Dreyfus est dégradé. Le 21, il embarque pour l'île du Diable, en Guyane. Dans le camp de Dreyfus, on ne désarme pas. Son propre frère, Mathieu, n'admet pas le silence coupable qui entoure l'affaire. Il trouve une aide précieuse auprès d'un officier du service des renseignements, le colonel Picard. Celui-ci détient la preuve qu'entre l'attaché militaire allemand Schwarzenkoppen et un officier français d'origine hongroise Esterházy, joueur invétéré, existe une abondante correspondance secrète. Picard sait qu'il tient le coupable, Esterházy. Il en informe le chef de l'état-major, le général de Boisdeffre, qui, pour toute réponse, l'envoie poursuivre sa carrière dans le sud tunisien. Mathieu Dreyfus s'adresse alors au journaliste Bernard Lazare, qui publie en 1896 une brochure où l'innocence du capitaine est démontrée. Personne ne s'y intéresse. Sauf un vieux sénateur, Schürkessner, qui publie dans le journal Le Temps un article résumant la brochure. Le lendemain, Mathieu Dreyfus livre le nom de l'auteur du bordereau, Esterházy. Le 10 janvier 1898, Esterházy passe devant le conseil de guerre qui l'acquitte. Dès lors, partout en France, dans les usines, dans les bureaux, dans les chaumières, les campagnes, les familles, dans les ménages même, deux camps vont s'affronter, parfois violemment. Les Dreyfusards, toute la gauche radicale, les socialistes qui suivent Jaurès, revenus de son jugement de 1894, et les anti-Dreyfusards, la droite nationaliste, autour de Déroulède, soutenue par la presse catholique. Émile Zola suit l'affaire. Convaincu de l'innocence de Dreyfus, il déclare « La vérité est en marche, rien ne peut plus l'arrêter ». Conscient de l'immensité du mensonge qui, depuis 4 ans, n'inquiète que fort peu les bonnes consciences, il propose au journal L'Aurore une lettre ouverte au président de la République. Jean Jaurès rattrape, quant à lui, son jugement de 1894, présentant ainsi Dreyfus en août 1898 dans le journal La Petite République. Alfred Dreyfus est seulement un exemplaire de l'humaine souffrance en ce qu'elle a de plus poignant. Il est le témoin vivant du mensonge militaire, de la lâcheté politique, des crimes de l'autorité. Il est innocent. Je le démontrerai.
Crucial Fachoda. Fachoda, c'est une petite ville au cœur du Soudan, sur les bords du Nil Blanc. Le 18 septembre 1898, le capitaine Jean-Baptiste Marchand, qui dirige une expédition française baptisée Congo-Nil, voit arriver une armée britannique de 20 000 hommes sous les ordres du général Kitchener. Le projet de la République française est de constituer en Afrique un axe ouest-est, du Sénégal à Djibouti. Celui des Anglais consiste à installer un axe nord-sud, de l'Égypte au Cap. Et Fachoda est le point crucial, le point au centre de la croix. De ces deux volontés colonialistes, qui va passer ? Faut-il que la France et l'Angleterre se déclarent la guerre pour Fachoda ? Le ministre des colonies, Delcassé, farouche partisan de la revanche contre l'Allemagne, envisage une alliance avec l'Angleterre pour récupérer l'Alsace et la Lorraine. Il décide donc de laisser l'avantage aux Anglais à Fachoda. Marchand est sommé de se retirer. Le 21 mars 1899, les Anglais entrent en possession de la totalité du bassin du Nil. En France, cette décision choque l'opinion, mais les passions déchaînées par l'affaire Dreyfus font bien vite passer au second plan la plus que fâcheuse reculade de Fachoda.
Georges Clémenceau, qui tient une rubrique dans le journal L'Aurore, apporte son soutien à Dreyfus. Il le fait d'autant plus volontiers qu'il est tenu à l'écart de la vie politique depuis l'affaire de Panama. C'est lui, Clémenceau, qui trouve le titre choc de l'article de Zola, « J'accuse ». Le 13 janvier 1898, l'article paraît. Sentant que la vérité pourrait éclater, des officiers anti-Dreyfusards, dont le colonel Henry, fournissent, de nouveau, de fausses preuves de la culpabilité du capitaine. Quant à Zola, il est déféré devant la cour d'assises de la Seine, condamné à 1 an de prison et à 3 000 francs d'amende. Le 18 juillet, sa condamnation est confirmée. Aussitôt, Clémenceau lui conseille de fuir. Ce que fait Zola, qui fonce en automobile vers Calais. Puis il prend un bateau pour l'Angleterre. Le 8 juillet 1898, le colonel Picard, dans une lettre ouverte au président du Conseil, affirme que les pièces qui ont fait condamner Dreyfus en 1894 sont des faux. 5 jours plus tard, il est arrêté et emprisonné. Esterhazy est également emprisonné, mais pour escroquerie. En août, coup de théâtre. Convoqué le 30 par le ministre de la guerre Godefroy Cavaignac, le colonel Henry avoue enfin avoir créé de toutes pièces de faux documents pour faire condamner Dreyfus. Aussitôt, il est enfermé au Mont-Valérien. On prend le soin de lui laisser des affaires de toilette, dont son rasoir. Le lendemain, 31 août, Henri est retrouvé mort. Le scandale est énorme. Le ministre démissionne. Son remplaçant, Dupuis, ordonne la révision du procès.
Félix Faure sans connaissance. Le médecin. Monsieur le président, a-t-il toujours sa connaissance ? Les domestiques. Non, on l'a fait sortir par derrière. C'est le dialogue qu'on a pu entendre le 16 février 1899 à l'Élysée. Le président de la République, Félix Faure, très hostile à la révision du procès Dreyfus, vient d'avoir un malaise dans les bras de sa connaissance, Marguerite Stenel, une demi-mondaine. Il ne s'en relèvera pas. Le président Soleil, comme on l'appelait à cause de son goût pour le faste, c'est un ancien ouvrier qui a fait fortune, collectionne les conquêtes jusqu'à ce jour fatal. Il n'est pas le seul. Clémenceau affiche lui aussi une robuste santé, multipliant les aventures féminines. Son épouse américaine se console dans les bras de ses amants, jusqu'au jour où le tigre la découvre en pleine consolation et la renvoie aux États-Unis, en troisième classe sur le bateau, après avoir divorcé. La palme de la vigueur revient sans doute à Ferdinand de Lesseps. À 64 ans, il épouse une jeune fille de 22 ans qui lui donnera 12 enfants, ce qui ne l'empêche pas de rendre des visites régulières dans les maisons closes. À 85 ans, il manifeste encore sa présence auprès de 3 ou 4 de leurs pensionnaires, plusieurs jours par semaine.
Dreyfus quitte l'île du Diable. Il débarque en août 1899 à Quiberon. Il est transféré à Rennes, où s'ouvre son second procès. Le 11 septembre, Dreyfus est reconnu coupable avec circonstances atténuantes. Le verdict paraît absurde. Le nouveau président de la République, Émile Loubet, gracie le capitaine Dreyfus. Mais ses défenseurs souhaitent un acquittement complet. Il n'interviendra que le 12 juillet 1906, sous le gouvernement de Clémenceau. Le jugement cassé, Dreyfus réintégrera l'armée avec le grade de chef d'escadron. Picard, celui dont le courage a fait éclater la vérité, sera nommé d'abord général, puis ministre de la guerre de Clémenceau.
Dreyfus, cible d'un exalté. Le jeudi 4 juin 1908, en présence du président de la République, Armand Falière, de nombreuses personnalités politiques et d'une foule importante, les cendres d'Émile Zola, mort asphyxié dans sa chambre en 1902, les causes de cette asphyxie demeurent mystérieuses, sont transférées au Panthéon. Soudain, un exalté, Sutelme, dit Grégory, reporter militaire au journal Le Gaulois, tire deux coups de feu sur le commandant en retraite, Alfred Dreyfus, qui avait pris place près du catafalque. Alfred Dreyfus est légèrement blessé à l'avant-bras droit. Profondément marqué par toute l'affaire qu'il a vécue, avec beaucoup de courage et de dignité, Dreyfus s'éteindra à Paris en 1935. Yves Dutheil, l'auteur de la chanson « Prendre un enfant par la main », désigné meilleure chanson du siècle dernier, est son petit-neveu.